L'Ancien Testament a été écrit en hébreu, du moins à plus de 99%. Seulement, il se compose de consonnes, ce qui fait que selon les voyelles qu'on leur attribue, le sens peut être différent, mais en général, ça ne change pas grand-chose. Dans le chapitre 6 du livre de Michée, selon les voyelles adoptées, Dieu dit « Ton nom verra le succès, celui qui est sage verra ton nom, celui qui est sage craindra ton nom, il sauve ceux qui le craignent, la sagesse, c'est de le craindre. » Au choix. C'est différent, mais en fait, ça revient au même. Les versions françaises, anglaises, allemandes ou l'ancienne traduction grecque adoptent l'une ou l'autre de ces possibilités. Dans ces situations qui sont relativement fréquentes, il est préférable d'employer le texte hébreu traditionnel, ce que je fais. Je continue à lire dans le chapitre 6 du livre de Michée. La voix de l'Éternel crie à la ville. Celui qui est sage verra ton nom. Écoutez le bâton et celui qui l'a ordonné. Verset 9. Après avoir exhorté le peuple de Dieu d'une voix douce et paternaliste, le prophète change soudainement de ton et dit « La voix de l'Éternel crie à la ville !» Il s'agit évidemment de Jérusalem, car c'est là que Michée a exercé son ministère et ce que désigne en général le mot « la ville ». Celui qui est sage est littéralement la sagesse. Le mot utilisé est très rare et signifie à proprement parler solidité, substance ou réalité. Ce terme abstrait désigne l'attitude de l'homme sérieux et prudent. Confronté à la loi de Dieu, il ne rue pas dans les brancards, mais s'efforce d'y conformer sa conduite. Quelle que soit la manière dont les Israélites écoutent le message de Michée, ceux qui sont sages y seront réceptifs, mettront à profit ce qu'ils ont entendu et s'en trouveront bien. D'autres passages des Écritures expriment à peu près la même pensée, comme par exemple « Agir avec droiture est une protection pour l'homme intègre. Obéir aux commandements, s'éveiller sur sa propre vie. Celui qui est sage verra ton nom, dit le texte hébreu traditionnel. Le nom de Dieu révèle qui il est, son être intime. Celui qui a vraiment la tête sur les épaules considérera qui est l'Éternel et aura envers lui une crainte révérentielle qui s'exprimera en attitude et en acte. Un proverbe dit « La clé de la sagesse, c'est de révérer l'Éternel ». Écouter le bâton est une forme elliptique qui signifie « écouter l'annonce de la venue du bâton ». Ce gourdin est un peuple étranger dont l'invasion accomplira les jugements de Dieu contre Israël. Dans le livre d'Ésaïe, le bâton est précisément désigné. Je lis les passages. « Malheur à l'Assyrien, bâton de ma colère, ce gourdin dans sa main est l'instrument de ma fureur. Par conséquent, voici ce que dit l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Ô toi, mon peuple, habitant de Sion, ne crains pas l'Assyrie, quand, avec le bâton, il viendra te frapper lorsqu'il brandira son gourdin contre toi, comme l'Égypte l'a fait autrefois. » Cependant, dans la prophétie de Michée, il s'agit probablement des Babyloniens. Je continue le texte. « Supporterai-je encore, communauté méchante, les biens injustement acquis, les mesures de capacité réduites, objet de ma malédiction ?» Verset 10. Les commerçants indélicats utilisaient deux poids, deux mesures selon qu'ils achetaient ou vendaient. S'ils achetaient un litre de blé, ils se servaient d'un conteneur qui était un peu plus grand et quand ils revendaient le blé, ils en utilisaient un qui était un peu plus petit. Les livres de la loi, des proverbes et le prophète Amos s'élèvent contre cette pratique qui était répandue. Je lis quelques passages. « Vous ne commettrez pas de malhonnêteté en fraudant sur les mesures de longueur, de poids ou de capacité. Vous vous servirez de balance juste, de poids juste, de mesure de capacité juste. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir d'Égypte. Tu n'auras pas dans ton sac deux sortes de poids différents, l'un plus lourd, l'autre plus léger. Tu n'auras pas dans ta maison deux mesures de capacité, l'une plus grande et l'autre plus petite. Tu auras des poids exacts et justes, des mesures exactes et justes, afin que tu vives longtemps dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Car l'Éternel ton Dieu a en abomination ceux qui commettent de telles fraudes. Oui, vous qui dites, quand la nouvelle lune sera-t-elle passée pour que nous vendions notre blé? Quand le sabbat finira-t-il pour que nous ouvrions nos magasins de gain? Nous diminuerons la mesure, nous en augmenterons le prix en truquant les balances, et nous en achèterons le pauvre pour de l'argent et l'indigent pour un morceau de pain. Nous vendrons même jusqu'aux déchets du blé. Je continue le texte. Serais-je sans reproche avec des balances fausses et avec des poids trompeurs dans le sac? Verset 11. C'est le prophète qui parle comme représentant de la mauvaise conscience des commerçants corrompus. Ils se savent coupables puisqu'ils pratiquent journellement les actes frauduleux que le prophète vient de mentionner. De toute évidence, les classes sociales supérieures n'étaient ni droits en affaires, ni miséricordieux à l'égard de leurs semblables. Je continue. Les riches de la ville ont recours à la violence, ses habitants profèrent des mensonges, leur langue ne fait que tromper. Verset 12. Non contents de tromper leur prochain, les riches de Jérusalem commettent aussi des actes violents. Et pour clore le tout, les habitants de la ville s'adonnent aux mensonges sans retenue. La fourberie suivie de violence est un engrenage diabolique sans échappatoire. Le roi David a crié à Dieu disant « Ne m'abandonne pas au projet de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence ». C'est aussi par ce genre de traquenard mis en place par les chefs religieux juifs qu'est tombé Jésus. Un texte dit que les chefs des prêtres et le grand conseil au complet cherchaient un faux témoignage contre Jésus pour pouvoir le condamner à mort. Mais bien qu'un bon nombre de faux témoins se fussent présentés, ils ne parvenaient pas à trouver de motif valable. Finalement, il en vint tout de même deux qui déclarèrent « Cet homme a dit, je peux démolir le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours ». Alors le grand prêtre reprit en disant « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous déclarer si tu es le Messie, le Fils de Dieu ». Jésus lui répondit « Tu l'as dit toi-même. De plus, je vous le déclare, à partir de maintenant, vous verrez le Fils de l'homme siégé à la droite du Tout-Puissant et venir en gloire sur les nuées du ciel ». À ces mots, le grand prêtre déchira ses vêtements en signe de consternation et s'écria « Il vient de prononcer des paroles blasphématoires. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous venez vous-même d'entendre le blasphème. Quel est votre verdict? » Ils répondirent, « Il est passible de mort. » Alors ils lui crachèrent au visage et le frappèrent. D'autres le giflèrent en disant, « Hé, Messie, fais le prophète. Dis-nous qui vient de te frapper. » Aujourd'hui, le mensonge est répandu dans tous les domaines de la vie. Les politiciens sont spécialistes de la langue de bois. Et il n'y a pas d'exception, car sans mentir, il n'est pas possible de se faire élire. Les hommes d'affaires dansent autour de la vérité en récitant un bréviaire incompréhensible pour les consommateurs. Les vendeurs parlent comme un disque rayé. Quant à la publicité, son objectif est de vendre peu importe comment. Qui ne ment pas quand il se sent coincé? C'est naturel, normal même. Comment en est-on venu là? L'explication est très simple. Il suffit de se rappeler que Satan est le prince de ce monde, qu'il mène le bal et qu'il est le père du mensonge. Je continue le texte. « À mon tour, l'Éternel dit, j'ai fait en sorte de vous frapper jusqu'à vous en rendre malade. J'ai fait en sorte de vous dévaster à cause de vos fautes. Tu mangeras, mais tu ne seras pas rassasié. » Et le vide sera au-dedans de toi. Tu mettras des choses de côté, mais tu ne les sauveras pas. Et ce que tu auras sauvé, je le livrerai à l'épée. Tu sèmeras, mais tu ne moissonneras pas. Tu fouleras l'olive, mais tu ne toindras pas d'huile. Tu fouleras le mou, mais tu ne boiras pas de vin. Versets 13 à 15. C'est ici la juste rétribution des fautes et surtout des violences exercées par les classes dirigeantes contre les petites gens. La même chose est arrivée au royaume israélite des 10 tribus du Nord. Le prophète Amos écrit « Puisque vous exploitez le pauvre et que vous lui prenez du blé de sa récolte, à cause de cela, les maisons en pierre de taille que vous avez bâties, vous ne les habiterez pas. Ces vignes excellentes que vous avez plantées, vous ne boirez pas de leur vin. » Assez curieusement, dans sa menace, Michée ne dit pas « tu presseras », mais « tu fouleras l'olive ». Normalement, les olives étaient soit pressées, soit écrasées dans un moulin. Les foulées aux pieds n'est pas très efficace, mais pour les pauvres, c'était la seule façon d'obtenir un peu d'huile. L'huile d'olive était utilisée à toutes les sauces, littéralement et autrement. Elle servait d'onction dans certaines cérémonies pour oindre ses hôtes, adoucir les plaies, frictionner les contusions et à d'autres usages. Quand Michée dit de la part de l'Éternel « J'ai fait en sorte de vous frapper, de vous dévaster », en hébreu, il emploie le temps du parfait qui sert à exprimer la certitude du jugement futur. Les Israélites ne pourront donc pas dire qu'ils n'ont pas été avertis. Non seulement l'Éternel leur a envoyé prophète sur prophète, mais une grande partie de la loi est constituée de menaces en cas de désobéissance. Par exemple, « Je suis l'Éternel votre Dieu qui vous ai fait sortir d'Égypte et vous ai libéré de l'esclavage. » J'ai brisé les barres de votre joug et je vous ai fait marcher la tête haute. Mais si vous ne m'écoutez pas et si vous n'appliquez pas tous mes commandements, si vous méprisez mes ordonnances et si vous rejetez mes lois pour ne plus appliquer tous mes commandements et pour violer mon alliance, voici comment j'agirai envers vous. J'interviendrai pour vous plonger dans l'épouvante et vous envoyer le dépérissement et la fièvre qui terniront votre regard et épuiseront votre vie. Vous répandrez en vain vos semences, car vos ennemis s'empareront de vos récoltes. Je me retournerai contre vous, vous serez battus par vos ennemis, ceux qui vous haïssent domineront sur vous, vous fuirez même sans que personne ne vous poursuive. Je rendrai le ciel au-dessus de vous dur comme du fer, et votre terre comme du bronze. Vous épuiserez vos forces en vains efforts, vos terres ne produiront plus rien, et les vergers ne porteront plus de fruits. Si vous continuez à me résister en refusant de m'écouter, je vous infligerai 7 fois des coups pour vous punir de vos péchés. Je lâcherai contre vous les bêtes sauvages qui vous raviront vos enfants, déchireront vos bêtes et vous réduiront à un petit nombre, en sorte que vos chemins deviendront déserts. Et si malgré ces châtiments, vous ne vous laissez pas corriger par moi, si vous vous obstinez à me résister, moi aussi je m'opposerai à vous, et je vous frapperai 7 fois plus à cause de vos péchés. Je déclencherai des guerres contre vous pour vous punir d'avoir rompu mon alliance. Si vous vous réfugiez dans vos villes fortifiées, je déchaînerai la peste au milieu de vous, et vous serez livrés à la merci de l'ennemi. Je vvous couperai les vivres de sorte que 10 femmes pourront cuire tout leur pain disponible dans un seul four. Et lorsqu'elles le distribueront par ration pesée, il n'apaisera pas votre faim. L'Éternel déchaînera contre vous la misère, le désordre et la ruine dans tout ce que vous entreprendrez et que vous exécuterez, jusqu'à ce que vous soyez complètement détruits, et vous ne tarderez pas à disparaître parce que vous m'aurez abandonné et que vous aurez commis de mauvaises actions. Toutes ces menaces effrayantes ne sont pas restées lettres mortes. Les prophètes et les livres historiques décrivent comment elles se sont accomplies. Le royaume du Nord fut conquis par les Assyriens, puis, moins d'un siècle et demi plus tard, ce fut le tour de Juda et de Jérusalem qui furent détruits par les Babyloniens. Je lis un passage. Pendant que le siège de la ville se prolongeait, une grande famine y sévissait au point qu'une tête d'âne valait 80 pièces d'argent et une livre de pois chiches 5 pièces d'argent. Je finis le chapitre 6 du livre de Michée. On observe les ordonnances d'Omri et toute la manière de faire de la maison d'Akab, et vous marchez d'après leurs conseils. C'est pourquoi je ferai de toi un objet d'horreur, de tes habitants un objet de raillerie, et vous porterez l'opprobre des peuples. Verset 16. Michée termine sa liste de menaces en rappelant sa cause. Il décrit la culpabilité de Juda sous forme poétique de trois manières différentes mais équivalentes, auxquelles il fait correspondre trois châtiments qui concernent d'abord Jérusalem, puis sa population et enfin toute la nation. On observe les ordonnances d'Omri et toute la manière de faire de la maison d'Akab et vous marchez d'après leurs conseils. La corruption et le mensonge qui étaient prévalents en Israël étaient la conséquence logique de l'abandon par le peuple de la loi de l'Éternel. Ce rejet de Dieu avait fait suite à l'idolâtrie qui avait été mise en place par le roi Jéroboam Ier dès la création du royaume des 10 tribus. Cette idolâtrie s'était aggravée avec le temps pour atteindre, sous la dynastie d'Omri, les mêmes niveaux que les nations païennes. Omri régna sur le royaume nord-israélite au début du 9e siècle avant Jésus-Christ. C'est lui qui fit construire la capitale Samarie. Au niveau moral et religieux, ce fut un très mauvais roi, pire que les précédents. L'Écriture donne de lui et de son fils le témoignage suivant. Omri fit ce que l'Éternel considère comme mal. Il agit encore plus mal que tous ses prédécesseurs. Il imita en tout l'exemple de Jéroboam, fils de Nébat. Il entraîna le peuple d'Israël dans le péché, en sorte qu'ils irritèrent l'Éternel leur Dieu par leur idolâtrie. Akab, fils d'Omri, fit ce que l'Éternel considère comme mal, et fut pire que tous ses prédécesseurs. Non content d'imiter les péchés de Jéroboam, fils de Nébat, il épousa encore Jézabel, fille d'Ethbaal, le roi des Sidoniens, et alla jusqu'à rendre un culte au dieu Baal et à se prosterner devant lui. Il construisit un temple en l'honneur de Baal à Samarie et y dressa un autel. Il érigea aussi un poteau sacré à la déesse Ashéra. Par tous ses actes, il irrita l'Éternel, le Dieu d'Israël, plus que tous les rois d'Israël qui l'avaient précédé. Jézabel, princesse phénicienne, était entièrement dévouée à l'idole Baal. Elle s'entoura de plusieurs centaines de faux prêtres et mit à mort les prophètes de l'Éternel. Durant le règne du couple infernal que constituaient Akab et Jézabel, le culte de Baal devint la religion officielle du royaume des 10 tribus du Nord. Leur règne était non seulement caractérisé par un paganisme de bas étage, mais également par le mépris du droit et de toute justice. Akab et Jézabel eurent pour fille Athali, qui devint l'épouse de Joram, un roi de Juda, qui imita son beau-père, ce qui fut une catastrophe pour le royaume de Juda. Les pratiques infâmes qui avaient cours dans le royaume du Nord s'étaient propagées dans Juda, le royaume du Sud, d'où les reproches de Michée qui accuse les habitants de Jérusalem, et en particulier les classes dirigeantes, de se rendre coupables des mêmes péchés que les Israélites sous les règnes d'Omri et d'Akab. Quand Michée dit « On observe scrupuleusement les ordonnances d'Omri et de toute la manière de faire de la maison d'Akab », il utilise pour « observer » une forme du verbe hébreu qui signifie « observer scrupuleusement », ce qui est une référence au culte de Baal et à la corruption dans les rapports sociaux. En conséquence, Juda connaîtra le même sort que le royaume des 10 tribus qui fut conquis et détruit par les Assyriens. il subira une série de châtiments qui ont déjà été décrits et qui culminera par l'exil et par sa fin politique. Michée a écrit cet oracle soit au temps d'Akaz, roi de Juda particulièrement idolâtre, soit au tout début du règne de son fils Ézéchias, avant que ce dernier n'entreprenne les grandes réformes religieuses qui abolirent l'idolâtrie en Juda. L'histoire enseigne que les dirigeants d'une nation donnent l'exemple à leur peuple et que les croyances de ce dernier se reflètent dans ses valeurs et dans les relations sociales. Or, d'un côté de l'Atlantique, nous avons eu un président qui, pendant son mandat, s'est déculotté devant l'une de ses assistantes, et en France, nous avons des présidents ou chefs de parti qui ont plusieurs femmes, ou bien passent de l'une à l'autre sans se sentir gênés le moins du monde. Il ne faut donc pas s'étonner que l'immoralité ait infiltré tous les niveaux de notre société.